Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
La notion de consentement, réactualisée par le livre de Vanessa Springora, où elle raconte et analyse l'emprise qu'exerça sur la toute jeune adolescente de 14 ans qu'elle était, un écrivain pédophile, est une notion cruciale. L'ampleur du succès rencontré par la notion de consentement dit assez combien elle est nécessaire, combien elle est venue et vient en aide à celles, et ce plus rares, qui ne se savaient pas autorisés à refuser d'être touchés s'ils ne souhaitaient pas l'être. Elle a des vertus en amont, puisque, dans les pays où elle a cours, la notion de consentement a permis et permet, notamment aux hommes qui ne le faisaient pas, de remplacer l'impérieuse évidence de leur désir à assouvir par l'ouverture d'un possible dialogue, non seulement sur « oui » ou « non », mais sur « comment », « quand », bref, d'ouvrir le dialogue sur la richesse d'un désir partagé et non d'une volonté imposée. Le succès du mot « consentement » me pose pourtant problème. D'abord, parce qu'il a été nécessaire. C'est-à-dire que ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les jeunes femmes, ni pour les jeunes hommes, ni pour les vieilles femmes, ni pour les vieux hommes, il n'allait de soi. C'est-à-dire encore que pour bien des hommes et pour bien des femmes, il était normal, oui, c'était la norme, que le corps de la femme ne soit le sien qu'en second, qu'il soit d'abord un corps pour l'homme. Ce qui ne signifie rien de moins que la chose suivante. Il était parfaitement admis que la moitié de l'humanité soit là pour servir l'autre, au lit ou à table, dans ses projets professionnels, sociaux ou personnels, comme faire valoir ou comme ventre à remplir d'enfants, de foutre ou de rien à foutre. Et dans bien des pays, c'est encore le cas. Or, si nous ne sommes pas vigilants, on va y retourner, pour peu qu'on en soit réellement sorti. Parce que voilà, le consentement est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt est immense et sombre. Freud a écrit qu'il y avait trois métiers impossibles, psychanalyser, gouverner et éduquer. Éduquer n'est pas un dressage à la passivité devant les ordres ou les caprices de père ou mère. Obliger un enfant à faire un bisou alors qu'il s'agit de lui enseigner les règles de politesse qui contiennent le fait de dire bonjour ou merci, c'est lui transmettre, dans l'intimité de son corps, l'habitude d'une soumission à la volonté de l'autre. Exiger d'un enfant qu'il obéisse pour faire plaisir à papa ou maman ou tonton ou mamie, c'est lui enseigner à se soumettre. Ce qu'un être humain doit apprendre, c'est qu'il y a des lois auxquelles nul ne peut se dérober, qu'il soit enfant ou parent, et que ces lois limitent nos pulsions. Et non pas qu'il faut satisfaire les pulsions de ceux qui dominent. Pour le dire vite, les parents doivent transmettre à leurs enfants les lois auxquelles ils sont eux-mêmes assujettis et non pas profiter de leur position pour se dérober aux lois en les rejetant sur leurs enfants. Bref, il s'agit d'accompagner les enfants dans le monde symbolique fait de langage, de lois et de culture, et non pas de leur inculquer la soumission à l'imaginaire d'un pouvoir dépendant uniquement des caprices ou du bon vouloir de leurs parents. Ainsi, l'éducation devrait être le premier pas qui fait des hommes et des femmes à venir, des êtres humains qui devront apprendre à faire avec une liberté responsable où leur désir rencontre les lois qui les limitent. Un homme, ça s'empêche, écrivait Camus. Autrement dit, on n'est humain qu'à limiter nos pulsions afin de les transformer en désirs conscients des interdits. Or, les discours de maître, abusant de leur position, de savoir ou d'autorité pour dominer leurs semblables afin de se soustraire eux-mêmes à une nécessaire limitation de leur toute-puissance, sont légion. Gouverner implique un renoncement à ses pulsions, à ses caprices, afin de se dévouer à la chose publique et au bien commun. On en est loin. Parlant du psychanalyste, Jacques Lacan rappelait qu'il était un sujet supposé savoir, mettant en évidence d'abord qu'il était lui-même un homme ou une femme reconnaissant son assujettissement au langage et à la continence, et qu'il ne tirait son savoir que de cette acceptation d'occuper une place impossible, celle du savoir que lui prêtent ses analysants afin qu'ils puissent trouver la sécurité pour déployer leurs propres paroles. La règle est difficile. Les maîtres pullulent. Tous, nous avons affaire avec la tentation d'imposer savoir ou pouvoir et de devoir y résister. Or, plus l'éducation aura été proche du dressage et plus nous serons tentés de nous en venger en imposant aux autres nos pulsions frustrées. Et puis, le mot consentement est tout de même un mot étrange, lui qui s'applique par exemple au consentement médical, au consentement au don d'organes ou au consentement au divorce. Que des réjouissances! Rien d'étonnant que les débats autour du consentement sexuel aient aussi touché le consentement médical, tant les abus du pouvoir médical, fondés sur un savoir non partagé, touchent à l'intimité et à la vulnérabilité de nos corps. Oui, dans ces situations où nous craignons pour nos vies, nous retrouvons, dans notre chair, une passivité dont il est difficile de distinguer si elle est apprise, transmise ou spontanée. Or, précisément, éduquer, enseigner, gouverner, soigner, psychanalyser, c'est accompagner l'autre à sortir de sa passivité, et non pas, comme c'est encore si souvent le cas, renforcer cette passivité pour jouir de son propre pouvoir et se venger ainsi de sa propre honte d'avoir été soumis. Le choix du mot consentement continue donc à poser problème, car consentir, ce n'est pas désirer. Consentir, comme le rappellent les dictionnaires, c'est donner son accord à une action, à un projet. Il est synonyme d'acquiescement, d'approbation, d'assentiment. Bref, il prolonge et même affermit une asymétrie de position où l'un désire et l'autre consent. Voilà qui est fort pervers et sans aucun doute loin d'être anodin. Car voici qu'on donne naissance à un étrange type de relation qui, d'une part, maintient la relation dominant-dominé, mais qui, de plus, instille une vraie suspicion face à tout désir qu'il émane des hommes, bien des femmes. Il ne paraît pas inutile de se demander pourquoi c'est la notion de consentement qui a connu un tel succès. Pourquoi pas celle de désir? Pourquoi n'avons-nous pas choisi de renforcer le désir des femmes et leur puissance plutôt que de culpabiliser celui des hommes? Parce que notre société déteste le désir. Parce que le désir est trouble, parce qu'il est sauvage, parce qu'il est dangereux, parce qu'il échappe aux préconisations, parce qu'il échappe à la morale, et que c'est là toute sa beauté et toute sa complexité. Or, nos sociétés, plus peut-être qu'aucune autre auparavant, sont terrifiées par le désir, qu'elles tentent de le manipuler en lui faisant prendre les vessies néons de la consommation pour les lanternes vacillantes et opaques du désir, ou qu'elle s'efforce de le faire taire chez les femmes, comme c'est souvent le cas, ou chez les hommes, comme ça le devient de plus en plus. L'aspect protocolaire et presque procédurier du consentement implique de remplacer la responsabilité que chacun doit prendre de son propre désir et de ses limitations par un contrat qui pourrait bien avoir comme conséquence de nous domestiquer tous et de nous rendre encore plus dociles aux caprices des puissants. Alors, que le consentement soit bienvenu s'il ouvre un dialogue essentiel sur la complexité de notre désir. Mais luttons, hommes et femmes ensemble, pour qu'il ne transforme pas la sexualité troublante et vivante en une gymnastique plus ou moins aseptisée, où ce que nous avons de plus palpitant et de plus intime deviendrait un divertissement aussi ennuyeux que les autres. Puisque le désir suppose une responsabilité, puisqu'il n'y a de désir sans altérité, puisqu'il suppose que nous acceptions nos limites, femmes et hommes, ne cédons pas sur notre désir. I've got big balls.